le deuxième livre des rois, au chapitre 13, et une lecture à partir du verset 14. 2 Rois 13, verset 14, nous allons retrouver Élisée, alité, malade, dans ses derniers jours. Mais voilà qu'un homme, un roi, vient lui rendre visite. 2 Rois 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui et pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et Élisée lui dit « prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « bande l'arc avec tes mains. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit « ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Et Élisée dit « tire !» Et il tira. Et Élisée dit « c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. » Et Élisée dit encore « prends les flèches !» Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « frappe, frappe contre terre !» Et il frappa trois fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu s'irrita contre lui. Et il dit, mais il fallait frapper mais cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Et maintenant, tu les battras trois fois. Amen. Joas, roi d'Israël, n'était pas spécialement un roi pieux. Et il ne manifestait plutôt que peu d'intérêt pour les choses de Dieu. Mais voilà, on lui annonce la fin imminente d'Élisée. Aussi se précipite-t-il vers le chevet du prophète. Quelles sont les motivations qui l'amènent maintenant? Est-ce un intérêt personnel, une peur de l'avenir, une affection réelle pour le prophète mourant? En tout cas, nous retrouvons Joas au pied du lit d'Élisée, et la scène que nous venons de lire nous en rappelle une autre, nous rappelle les instants où Élisée se tenait auprès du prophète Élie avant que celui-ci ne soit enlevé vers les cieux dans un char de feu. Et c'est vrai qu'entre les deux passages, il y a des ressemblances frappantes. Même situation, un homme de Dieu qui est sur le point de retourner vers le Seigneur. Et puis, il y a les mêmes paroles. Oh, peut-être Joas a-t-il calqué ses paroles sur celles qu'Élisée avait prononcées, qui sont devenues certainement fameuses. « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et puis une même demande, une dernière bénédiction, avant que celui qui est la force d'Israël ne disparaisse et ne retourne vers le Seigneur. Mais il y a malgré tout une différence entre Joas auprès d'Élisée et Élisée auprès d'Élie, c'est que là, ce n'est pas la double portion qui est recherchée, mais plutôt une action de délivrance face aux Syriens. Ce n'est pas le relèvement du manteau prophétique qui est proposé, mais ce qu'Élisée propose à Joas de prendre, c'est un arc et des flèches, et il est vrai que cela convenait beaucoup mieux à la fonction royale de Joas. Alors, de quoi ce texte nous parle-t-il? Il nous parle de salut et de délivrance accordé de la part du Seigneur. Mais il nous parle aussi de la part, notre part, ma part, à jouer dans cette délivrance espérée et promise par Dieu. Alors en quoi ce texte s'adresse-t-il à nous en tant qu'assemblée? Bien, je crois que tout comme Élisée posa ses mains sur Joas avant qu'il ne tire la première flèche, Dieu a répandu son esprit sur son peuple. Et il nous a revêtus de puissance et a affermi nos mains. Tout comme Joas a décoché une première flèche vers l'Orient, en Jésus, une première flèche, annonce prophétique d'autres victoires, a été décochée vers ce monde. Et enfin, tout comme Joas devait frapper le sol, il nous appartient à notre tour de frapper et de frapper. Une fois, deux fois, trois fois, nous avons remporté des premières victoires, gloire à Dieu, mais continuerons-nous encore à frapper? Ne nous arrêtons pas. Des promesses sont là, des promesses de plus grandes victoires. Et c'est notre responsabilité, bien-aimée, de continuer à frapper ce sol avec des flèches dont nous disposons déjà. Mon premier point serait ce matin de parler des mains d'Élisée. Quelque temps auparavant, au début de ce chapitre, il nous est rapporté que Dieu avait déjà prononcé une parole de jugement sur le roi de Syrie. Et il avait annoncé à Israël qu'il lui susciterait un libérateur. Et par les mains de son prophète, appliquées sur celles du roi Joas, il commença à réaliser cette délivrance. Et alors des victoires furent accordées. Aujourd'hui, même s'il est vrai que la défaite de Satan sera pleinement achevée au retour de Jésus-Christ, nous savons que par la bouche de son serviteur, Dieu a prononcé un jugement contre le prince de ce monde. Et déjà, dans bien des endroits de notre terre, nous pourrions dire, comme Jésus le disait en son temps, « Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair ». Je lisais une nouvelle qui m'a vraiment stupéfait. Je n'imaginais pas ça. La nouvelle vient quand même d'un journal américain chrétien très sérieux, Charisma Magazine, l'une des revues les plus importantes aux États-Unis dans le monde chrétien, qui rapporte qu'aujourd'hui, 10% de la population indienne est chrétienne évangélique. Il raconte qu'il y a des régions entières où on ne rencontre plus que des chrétiens. C'est étonnant. Satan est en train de tomber du ciel. Mais revenons à Élisée. La bouche du prophète, c'est la bouche de Dieu, nous le savons. Mais les mains d'Élisée, qui ont fortifié et dirigé les mains du roi Joas, sont aussi les mains de Dieu. Les mains du sauveur du peuple. Sans les mains du Seigneur, pas de délivrance. Sans le Saint-Esprit qui conduit nos vies et nos ministères, qui nous revêt de sa puissance, qui nous montre une direction, rien ne serait possible. Quels que soient les arcs, quelles que soient les flèches, quels que soient les dons, quels que soient les talents dont nous disposons, l'habileté qui est la nôtre, si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, nous travaillons en vain. Le Saint-Esprit est là et il est prêt à bénir. Mais je note ceci, si vous retournez vers le texte, nous découvrons que Élisée a saisi les mains de Joas après que celui-ci ait pris son arc et eut bandé son arc. C'est après qu'il a touché les mains du roi. Ce qui m'amène à comprendre que la puissance de Dieu est accordée à ceux qui se tendent vers son œuvre pour l'accomplir. Le Seigneur aurait pu dire « La puissance du Saint-Esprit est accordée aux violents qui sont prêts à s'emparer du royaume du Seigneur. » La question est là, sommes-nous tendus ? Sommes-nous tendus, armés, pour le combat à venir ? Alléluia ! Le Seigneur veut poser ses mains sur nous. Gloire à Dieu. Mon deuxième point, c'est de rappeler ceci. Jésus est la première flèche. Jésus a tiré la première flèche. Il est la première flèche et il a remporté la victoire. Ésaïe chapitre 49, verset 2. Je vous rappelle cette belle parole qui nous parle du Messie à venir. Jésus. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Et le prophète dit du Messie, il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Jésus est notre roi. Jésus est un roi puissamment armé d'un arc. Et il est parti au combat, il a décoché une flèche qui a été une flèche de déclaration des hostilités, mais aussi une flèche de victoire. Jésus a tiré la flèche du salut. Plein de la puissance du Saint-Esprit approuvée par son Père, à la croix, Jésus est devenu lui-même cette flèche de délivrance de la part du Seigneur. Il est une flèche puissante qui est allé se planter au cœur même du royaume des ténèbres. Il est une flèche de délivrance contre le prince de ce monde dont le temps du jugement est venu. Satan, tu tombes du ciel. Et qui pourrait briser cette flèche? Qui pourrait déterrer cette flèche? La croix de Christ reste debout parce que cette flèche a un nom, c'est Golgotha. Golgotha est cette flèche plantée dans le sol de notre terre pour témoigner de la victoire de Jésus-Christ sur les ténèbres. Là, à la croix, Jésus a combattu. Là, il a défait l'ennemi. Là, il a remporté la victoire. Là, il a livré publiquement en spectacle notre ennemi. Et là, il l'a dépouillé de sa puissance. Oui, le sacrifice de Jésus sur la croix est la flèche qui a transpercé et déchiré le royaume des ténèbres afin de libérer les captifs. Élisée avait dit à Joas, ouvre la fenêtre vers l'Orient et tire une flèche vers l'Orient. Mais je voudrais vous dire que la puissance de la croix n'est pas limitée à un seul point cardinal de ce monde. La puissance de la croix s'étend au septentrion, au midi, à l'Orient comme à l'Occident. Mais il est vrai que le Seigneur nous montre une direction. Et pour nous, cette direction a un nom, c'est cette ville de Paris. Et je crois que la puissance de la croix a atteint notre ville. Je crois que la flèche de Golgotha a été aussi plantée au cœur de cette cité. Gloire à Dieu. Comme Luc le dit en introduction de son livre des Actes, l'œuvre de Jésus, cette flèche-là, n'est qu'un commencement. Une victoire qui appelle d'autres victoires. Une promesse que nous, serviteurs devant, en notre génération, en notre lieu, peut-être en reprenant le texte d'Élisée Joas, en notre sol, devons compléter et achever en frappant à notre tour. La flèche que Dieu a décochée en Jésus il y a 2000 ans à Golgotha a depuis été suivie par des milliers et des milliers d'autres qui ont traversé l'histoire et les continents jusqu'à nous aujourd'hui. Et à notre tour, il s'agit de prendre les flèches qui sont dans notre carquois et de frapper le sol. Au nom du Seigneur, la première flèche a été décochée, à nous de continuer. Et la question, c'est mon troisième point, se pose alors, elle est évidente, combien de fois frapperons-nous le sol ? Élisée a dit à Joas, prends un arc et des flèches. Alors certainement, il devait y avoir là un de ses aides de camp qui a dû lui fournir son arc et son carquois qui était rempli de flèches, un arc royal, des flèches royales, un carquois royal. Et pour le roi Joas, prendre son arc et ses flèches voulait dire, prépare-toi au combat. C'était un guerrier, un homme habitué à combattre. Et fortifié par les mains d'Élisée qui se posent sur les siennes, il a donc tiré cette première flèche vers l'Orient, comme le prophète le lui avait indiqué. Oh, certes, Joas a dû comprendre la portée symbolique de son geste, parce qu'à l'époque, comme dans beaucoup de civilisations de l'Antiquité, eh bien, tirer une flèche vers l'ennemi, brandir un javelot vers l'ennemi, c'était comme une déclaration de guerre, une déclaration d'hostilité. Alors, Joas comprenait le sens symbolique de cet acte, mais il y a là plus qu'un symbole. Dans cette flèche tirée vers l'Orient, il y a un acte prophétique. D'ailleurs, à mon sens, Joas n'est pas venu voir Élisée simplement que pour avoir un symbole. Lui, ce qu'il voulait, c'était une parole prophétique, un acte de puissance, et Joas l'a eu. Alors Élisée va lui expliquer la portée spirituelle, non pas la portée humaine qu'on pouvait comprendre, mais la portée spirituelle de ce qu'il venait d'accomplir, et guidé par sa parole et ses mains. Et Élisée lui dit, tu vois cette flèche, c'est une flèche de délivrance contre les Syriens. C'est une flèche de la part de l'Éternel, cette flèche que tu viens de tirer. Ainsi donc, quand Joas a tiré la première flèche vers l'Orient, il l'a fait sur le commandement d'Élisée, mais il en ignorait la signification réelle. Il ne savait pas ce que représentait cet acte, alors Dieu lui a expliqué, c'est une flèche de délivrance. Et il comprend maintenant la portée spirituelle de son acte. Mes frères et sœurs, le Seigneur a étendu ses mains sur nous. Et il a commandé à son Église de prendre un arc et de prendre des flèches. Et il nous a dit, ouvre la fenêtre. Et nous avons ouvert des fenêtres, là où Dieu nous conduit, là où Dieu nous place. Et pour nous, cette fenêtre, c'est vrai, s'ouvre prioritairement sur notre ville de Paris, sur cette grande agglomération de plus de 11 millions d'habitants. Et il nous a ordonné de tirer une première flèche. Et pour beaucoup, lorsque nous avons répondu à son appel, ce fut mon cas aussi, En répondant à son appel, nous avons tiré la flèche, mais nous ne savions pas exactement ce que représentait cette flèche, vers quoi cette flèche nous conduirait. Mais par la foi, nous avons obéi et Dieu nous a fait rentrer dans son projet, un projet de victoire. Maintenant, j'entends de nouveau la voix du Seigneur qui résonne dans mon cœur. Et elle vient me dire, prends les flèches, prends d'autres flèches, prends ces flèches que tu as en ta possession et frappe. Frappe le sol. C'est ce que devait faire aussi Joas. Et la destruction de la Syrie dépendait du degré de foi en Dieu, du degré de zèle, d'opiniâtreté, de persévérance que Joas monterait. Serait-il un instrument de délivrance ? Entre les mains du Seigneur, il avait tout. La parole, les moyens, il lui restait à le faire. Hélas, hélas, hélas. Quand il s'agit de tirer contre terre sans que les mains d'Élisée couvrent les siennes, lorsque le roi Joas est laissé par Élisée à son propre engagement, à ses propres ressources, le roi frappe une fois, il frappe deux fois, il frappe trois fois à la terre de ses flèches et malheureusement, il s'arrêta. Juste cette parenthèse, tout le livre d'Élisée, pardon, le deuxième livre des rois, mais l'histoire d'Élisée est marquée par cette idée de combien de fois, jusqu'où ? Accorde-moi la double portion, dit-il à Élie. Et Élie lui dit, jusqu'où ? C'est difficile, mais si tu viens jusque-là, tu la recevras. Et Élisée est allé jusqu'au bout, les fils des prophètes étaient restés en arrière. Je pense à Naaman, non pas une fois, deux fois, trois fois, mais six fois, sept fois, plonge-toi dans le Jourdain. Et s'il s'arrêtait à la sixième, il n'était pas guéri, il devait aller jusqu'à la septième. Je pense encore à cette veuve. Combien de vases allait-elle présenter à Dieu ? Des vases qui seraient remplis les uns après les autres d'huile. Le livre d'Élisée est traversé par cette idée. Et elle nous parle à nous aussi. Combien de fois ? Jusqu'où irons-nous ? Comme pour dire, la bénédiction de Dieu est là, mais c'est nous qui la limitons. Ou c'est nous qui lui laissons aller jusqu'au bout. Dieu a dit, il a fait cette promesse à Joas à travers Élisée, tu les battras jusqu'à l'extermination. Jusqu'au bout, mais encore fallait-il y aller. Alors, dans cette histoire, malheureusement, le roi s'est montré insuffisant et il s'est montré aussi incrédule. La première fois, quand il a tiré vers l'Orient, il ne savait pas pourquoi il tirait. Élisée lui a expliqué, après, tu viens de tirer une flèche de délivrance. Mais dorénavant, alors qu'il doit frapper au sol, il peut comprendre la portée de son geste. Malheureusement, il va s'arrêter au bout de la troisième flèche tirée au sol. Alors, frères et sœurs, n'accablons pas cet homme sans d'abord nous tourner nos regards vers nous-mêmes. Au regard de la situation de nos assemblées en France, qui douterait que le Seigneur nous ait accordé déjà la première flèche de délivrance ? Dieu agit dans ce pays. Et Dieu soit loué, ça fait très longtemps qu'il agit. Le Seigneur a décoché la première flèche. Nos pères et nous-mêmes, dans cette génération, nous avons aussi frappé le sol. Combien de flèches ont-elles frappé ? Combien de victoires ont-elles été remportées ? Mais il nous appartient encore de continuer. Joas a frappé trois fois le sol, et puis il s'est arrêté. Et la colère de l'homme de Dieu, la colère de Dieu lui-même, s'est embrasée contre Joas. Et il lui dit, mais je voulais que tu délivres entièrement le peuple d'Israël. Et cela dépendait de toi, mais tu ne l'as pas voulu. Tu n'as pas suffisamment frappé le sol. Alors tu ne battras ton ennemi que trois fois, alors que tu aurais pu le battre jusqu'à l'extermination. Il aurait dû tirer toutes ses flèches jusqu'à épuisement du stock qu'il avait en possession. Il avait reçu carte blanche de la part du prophète. Nous avons reçu un mandat de la part du Seigneur de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. À nous d'utiliser tout le mandat que Dieu nous donne. Élisée avait donc laissé au roi de décider combien de fois il frapperait le sol. Si Joas avait eu 10 flèches dans son carquois, il aurait pu frapper 10 fois le sol et remporter autant de victoires. Il ne frappa que 3 fois. Mais pourtant, il devait rester des flèches dans son carquois. Puisqu'Élisée lui dit, mais tu aurais pu frapper 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il avait au moins 3 flèches en plus encore dans le carquois. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Qu'est-ce qu'il a arrêté ? Son manque de zèle et de persévérance a limité le nombre de ses victoires. Comprenons que nous pouvons limiter le nombre de victoires. Dieu, en Jésus, nous offre la victoire. Il a remporté toutes les victoires. Et il a rempli notre carquois de flèches. Mais à nous de les prendre et de frapper le sol. Élisée avait donc laissé au roi le choix de décider jusqu'à quel niveau d'accomplissement il porterait sa victoire. Une, deux, trois victoires ou jusqu'à l'extermination. Et nous-mêmes, jusqu'à quel niveau d'accomplissement pousserons-nous nos victoires? Les premières victoires enregistrées, béni soit le Seigneur. Mais allons-nous nous contenter de cela? Quand Dieu veut nous donner toutes les victoires, alors il nous faut continuer de frapper le sol. Mes frères et sœurs, comprenons-le bien. Le problème n'est pas la puissance de l'ennemi. À l'époque d'Élisée et Joas, l'armée de Syrie était une armée conquérante, une armée puissante, alors que l'armée d'Israël se réduisait à quelques régiments et quelques bêtes. Presque tout le reste avait été battu et défait. Le problème, malgré tout, n'est pas la puissance de l'ennemi. Le problème, c'est notre engagement. Toute la question est là. Certes, plus tard, nous serons appelés à porter cette lutte. Cette lutte dont l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens 6. Et il nous faudra lutter. Mais la lutte vient après avoir frappé le sol. Ce n'est pas la lutte qui décide de la victoire. Ce qui décide de la victoire, c'est de savoir si nous allons frapper le sol. C'est là, auprès du lit d'Élisée, que les victoires se sont décidées. Les victoires ont été acquises à ce moment-là, et non pas sur le champ de bataille, plus tard. Nous aurons des luttes à mener, mais la victoire s'obtient là, aujourd'hui, dans cette résolution que nous montrons à frapper le sol à notre tour. Alors, nous pourrions entendre ces questions au milieu de nous, mais avec quelle flèche? Où sont les flèches? D'autres diront, aurons-nous assez de flèches? D'autres diront encore, demandons à Dieu plus de flèches. Alors, je veux vous répondre avec foi. Les flèches sont ici. Parce que Dieu a déjà préparé ses flèches. Le Seigneur est le premier à mettre en pratique sa parole, n'est-ce pas? Or, il est écrit dans le psaume 127, verset 5, « Heureux l'homme qui remplit des fils de sa jeunesse son carquois. » Et je crois que le Seigneur a rempli son carquois de ses fils et de ses filles. Autrement dit, nous sommes les flèches, nous-mêmes. Nous sommes ces flèches que Dieu veut utiliser pour frapper le sol et remporter les victoires. Des flèches aiguës, ah! Peut-être convient-il de nous aiguiser encore par la puissance du Saint-Esprit. Convient-il encore de nous aiguiser par l'œuvre de la parole? Nous avons besoin de devenir pénétrants, effilés, afin de fuser comme il le faut. Alors peut-être le Seigneur nous garde-t-il encore dans son carquois? Ésaïe dit au sujet du Messie, « Il m'a gardé dans son carquois, il m'a caché dans son carquois. » Et tu dis, « Ce matin, je suis comme caché. » Et quand on est caché, on veut souvent sortir. Mais il est bon d'être caché, à l'ombre de la main du Seigneur, là où Dieu est en train de nous travailler. Je loue le Seigneur parce que je sais que Dieu est en train de poser sa main, l'ombre de sa main sur plusieurs. Dieu vous cache dans son carquois. Et là, dans son carquois, il est en train de vous effiler. Il est en train de vous aiguiser. Et il ne faut pas vous sortir trop tôt du carquois. Mais autant voulu par Dieu, autant où Dieu nous le dira. Mon frère, ma sœur, tu es une flèche entre les mains de Jésus. Une flèche parmi tant d'autres. Et je bénis Dieu parce que le carquois de cette église est rempli. Et il est plus que rempli, avec suffisamment de flèches pour remporter de grandes victoires. Gédéon, avec 300 hommes, a remporté une victoire contre l'armée immense des Madianites. le carquois est plein. Le Seigneur veut faire de toi un signe de victoire dans cette ville. Oui, une flèche de délivrance et de salut a été tirée. Et elle est plantée en plein cœur de cette ville. Ne doutez jamais de cela. La puissance de la croix s'étend au cœur de notre ville de Paris. Paris appartient à Jésus. Et nos pères ont tiré des premières flèches qui ont atteint le sol. Et nous avons commencé à tirer des premières flèches qui ont atteint le sol et nous avons remporté des premières victoires. Nous devons continuer. Alors nous allons continuer à travailler avec vous pour que vous soyez vraiment ces flèches. À former, à encourager. Et puis à vous laisser quand même un peu de temps encore dans le carquois. Quand vous êtes prêts, quand nous sentons que vraiment le temps de Dieu est venu, alors il nous appartient de laisser le miracle s'accomplir et de te prendre, de vous prendre et de vous placer sur l'arc et de frapper le sol avec la puissance que le Seigneur vous accorde. Le miracle, il est là au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin de chercher des armes ailleurs. Dieu a rempli son carquois. Vous êtes ces flèches. Ça fait pas mal de temps que nous parlons sur ça. Et avec les pasteurs, nous nous réjouissons parce que nous voyons des signes, vraiment de très beaux signes. Ces frères et sœurs qui étaient là pour nous parler de leur ministère tout à l'heure en sont des témoins. Mais nous bénissons Dieu de ce qu'il y a aujourd'hui au milieu de nous, plusieurs jeunes frères qui se lèvent en disant « J'ai un appel de Dieu pour la parole ». Et ça, c'est vraiment un encouragement. D'autres qui se lèvent pour la prière. D'autres qui se lèvent avec le désir d'évangéliser dans cette ville. Vous êtes ces flèches. Et Dieu voulant, nous allons vous prendre et nous allons encore frapper le sol. Nous n'allons pas nous contenter des premières victoires, car Dieu nous a dit que nous aurons la totale victoire jusqu'à l'extermination de nos ennemis et le salut des gens de cette ville. Dieu a déjà multiplié, mais ce qu'il est sur le point de faire dépasse notre entendement. Le Seigneur a planté une première flèche dans cette ville, et d'autres sont là. Accepterez-vous d'être cette flèche aiguë? Accepterez-vous d'être brandi et d'être frappé au sol pour la gloire du royaume de Dieu. Amen.